autant que l'amour est un principe de vie, la volonté. Et c'est vers ceci que nous avançons dans le siècle qui vient. Et à ce moment-là, les gens qui auront compris ceci, parce qu'ils seront justement dans cet esprit, pourront facilement comprendre le phénomène extraterrestre et le voir dans tous ses angles et en comprendre tous les aspects. La planète Terre est totalement contaminée par la pensée et l'émotion. Et l'homme, et quand je dis l'homme, je dis l'individu, je ne parle pas de la collectivité, des nations. L'homme, en tant qu'individu, qu'il soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, qu'il soit n'importe où, l'homme qui sortira de cette boue, qui réussira à vivre en dehors de cet égrégore, connaîtra tout ce que aujourd'hui les hommes, surtout les ésocultistes ou les ésotéristes, tout ce que les hommes essaient de comprendre. Tout lui viendra avec très grande facilité, sans effort. Mais nous, nous devons de vivre et de développer la certitude en soi-même. Et ce n'est pas facile, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Mais je dois vous le dire. Sans ça, on rêve en couleur.
Je pense qu'il y a encore une porte de sortie. C'est que jamais il n'arrive aux humains l'expérience au-dessus de ses capacités. Ça reste une loi cosmique.
C'est une loi d'harmonie.
Donc, même encore là, les extraterrestres ne feront aucune intervention au-delà des forces des êtres humains.
Oui, mais il y a une chose qu'il faut éclaircir. Même si les extraterrestres ne font pas intervention dans la civilisation de l'homme, pour des raisons qu'ils comprennent, le fait que l'homme, lui, puisse faire face, entrer en contact avec des extraterrestres sur le plan personnel. Ce n'est pas sur le plan de la collectivité que le danger existe. C'est toujours sur le plan individuel. Une société s'est faite de plusieurs individus. Moi, je me fous du concept moderne de la société, de la grande collectivité, du grand anonymat. Les hommes sont fondamentaux et primordiaux. Et toute société qui détruit l'humanité dans l'homme, l'individualité dans l'homme, par quelque moyen que ce soit, éventuellement doit être détruite, et elle sera détruite parce que les forces cosmiques se manifestent dans l'homme. Alors, à un certain moment, l'homme a la puissance de détruire. C'est ce qui a produit les révolutions, les ci, les ça, au cours des siècles. Il y a toujours eu un homme qui avait la puissance de détruire la forme de la société. Et ensuite, il a ouvert un chemin pour les autres. Au niveau des extraterrestres, c'est la même chose. Que les extraterrestres viennent sur la planète Terre, le phénomène sera toujours à l'intérieur de l'individu. Il y aura des individus qui succomberont à la vibration, à l'expérience, sur le plan psychologique, et il y aura des individus qui iront plus loin dans l'expérience et qui pourront se retrancher de cette expérience parce qu'ils sauront où ils en sont. Et ce sont ces individus-là qui ensuite seront récupérés par les forces de la lumière. Les autres feront leur expérience, ça fait partie de leur expérience. Il y en a qui seront terrorisés par l'expérience. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, aussitôt qu'il y a un petit peu d'activité ou de suractivité dans un coin de la ville, tout le monde s'excite. Aussitôt que l'eau courante cesse de fonctionner, tout le monde s'énerve. Aussitôt qu'il y a une guerre, tout le monde est figé. Alors imaginez-vous qu'à une échelle comme ça, la planète totale est figée.
Car ça va se produire à l'échelle planétaire.
Ça doit se produire à l'échelle planétaire parce que c'est la confrontation entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. C'est la confrontation, c'est le grand combat. Et ce qui se produit sur le plan matériel humain est simplement la manifestation dernière de ce qui se produit sur les autres plans. Le conflit, la guerre du monde est déjà commencé sur les autres plans. Mais elle se manifeste dans ses derniers lieux, dans ses derniers soupirs, sur le plan matériel. C'est toujours la matière qui reçoit le dernier contre-coup. Mais déjà, le combat est entamé sur les autres plans. Si vous allez sur les autres plans, vous les vivez, les combats, vous les voyez, les combats. Alors, une fois que ces combats sont descendus dans la matière, l'homme, lui, qui est dans la matière, vit ces combats. Il n'est pas capable de voir au-delà des illusions, des forces qui sont en fonction. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le discernement. Les extraterrestres qui viennent sur la planète Terre et qui vont dans des champs aux États-Unis ou dans différents pays pour détruire les animaux n'ont pas le droit de faire ça. C'est contre les lois de la vie. C'est une interférence dans le champ psychologique de l'évolution humaine au niveau du sens moral de l'homme envers la vie. Alors déjà, l'homme devrait savoir que ces entités sont des entités d'origine négative.
Est-ce qu'on peut parler des 25 000 personnes en moyenne capturées aux États-Unis dans une année?
Toute la capture, l'abduction, abduction, comme on dit en anglais. La loi de voler un homme d'une planète, c'est un vol. On n'a pas le droit de voler un homme d'une planète.
Ou des enfants?
La même chose. Vous aimeriez, vous, qu'on descende chez vous là, dans la nuit, qu'on vous amène?
Toujours en nous demandant, malgré tout, si ça nous intéresse d'aller avec eux?
Non, c'est le plus grand danger. Ça vous intéressera toujours. Il faut que vous sachiez intérieurement si c'est bon. Si vous sachiez intérieurement, ou si vous savez par télépathie que c'est bon, alors vous allez. Mais vous savez à ce moment-là que tout fait partie de l'évolution de votre vie personnelle et de la civilisation. C'est un atout. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans un vaisseau comme ça. Mais si vous n'avez pas la conscience, vous n'aurez jamais le pouvoir de freiner leur contact avec vous. Ils sont trop puissants. Ils vous regardent et ils vous commandent. Pourquoi je suis contre l'hypnose? Il y a des gens qui font de l'hypnose et qui parlent d'hypnose. C'est très dangereux, l'hypnose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font de bonnes choses avec l'hypnose. C'est pas ça que je dis. Je dis que l'homme ne peut pas se permettre d'être hypnotisé. On ne peut pas soumettre notre esprit à l'esprit d'un homme. Le principe est mauvais. L'homme doit être autonome. Et ces êtres-là qui ont un pouvoir hypnotique extraordinaire, lorsqu'ils entrent en contact avec l'homme, lui suggèrent et ça fonctionne tout de suite. Il n'y a plus rien à dire. Regardez ce qui est arrivé à Barney Hill et l'autre. Mais pour que l'homme ne soit pas sujet à l'hypnose, il faut qu'il soit en relation avec ses êtres, il faut qu'il soit très mental. Il ne faut pas qu'il n'y ait d'émotion, il faut qu'il soit mental. Il faut que son mental inférieur et son mental supérieur soient en communication. Il faut qu'il sache ce qui se passe à chaque moment de l'intrusion dans son espace-temps. Sans ça, on devient cobaye. Miguel, c'est un exemple. Jean Miguel, il a très bien intitulé le livre « Cobaye des extraterrestres ». Comment des extraterrestres peuvent dire à un homme « Nous te possédons ». Nous te possédons.
Il y a un homme qui est peut-être ici ce soir parce que justement, elle a eu l'invitation de partir. Elle sait qu'il y a eu des gens qui sont partis en partant dans leur cuisine. Une porte s'ouvre dans une autre dimension. Il y a des maris qui cherchent encore leur épouse. La tasse de café est restée sur la table chaude. C'est pas un kidnapping parce que la maison est à bord. L'intérieur. Moi, je lui disais quand même que c'est dans son fond intérieur qu'elle va trouver si elle doit partir ou pas. Et de votre côté, vous dites, en fin de compte, sa place, c'est ici.
C'est en relation avec notre propre vibration. C'est toujours, ça doit toujours être en relation avec notre propre vibration interne qu'on doit subir certaines expériences ou d'autres. Il faut savoir. Si l'homme est en contact avec le supramental va lui expliquer telle chose. On va lui dire, tu vas partir pour 2 semaines, on va faire telle chose, on va transmuter les vibrations de ton corps matériel, on va expliquer. Il est dans la confiance intérieure, il est dans la conscience interne, il est dans sa propre énergie de vie, il est dans sa propre intelligence. Il n'est pas dans l'intelligence d'une autre personne. C'est ça que j'essaie de mettre en relief. Et je sais que c'est essentiel dans l'avenir. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est le problème existe, excepté dans des cas très localisés. Mais l'homme doit être totalement non influençable. Et où ça commence, ça? Cet entraînement de ne pas être influencé, ça ne commence pas dans le contact avec des extraterrestres, c'est tout, il est beaucoup trop tard. Ça commence dans la vie de chaque jour. Ça commence dans notre bureau, ça commence avec toutes les formes qu'on reçoit tous les jours et qui nous influencent et qui nous enlèvent notre individualité, qui nous enlèvent notre faculté de penser. Pourquoi? Parce qu'elles vivent ces influences, elles se nourrissent de notre émotion. Et tous les hommes souffrent de ça. Tous les gens vivent, comprennent ce que je veux dire, mais les hommes n'ont pas la volonté, n'ont pas la force, parce qu'ils sont déjà trop prisonniers de ces formes. Alors vous vous imaginez le contact avec des extraterrestres, pour eux, c'est coucher avec Salvador Dali. Et je vous dis ça, et je sais que ça intéresse les gens, ils trouvent ça intéressant, mais vous ne réalisez pas ce que je dis. Ça va vous prendre des années avant de réaliser ce que je dis. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Petit à petit, vous allez réaliser. Il y en a qui réaliseront plus que d'autres. Parce que je sais que je ne me trompe pas. Que tous les hommes ont en eux un siège. Et ils veulent être les conducteurs dans leur siège. Mais le pouvoir a été érodé. Tant que les choses vont bien, tant que l'homme n'est pas en relation avec des forces cosmiques, ça va. Mais lorsque l'homme commence à être en relation avec des forces cosmiques, que ce soit sur le plan des extraterrestres ou même que ce soit sur le plan purement occulte, comme certains d'entre vous connaissent, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un combat pour l'esprit de l'homme dans le cosmos, sur le plan matériel comme sur les autres plans. Le combat pour l'esprit de l'homme, et très peu d'hommes pourront passer à travers. Parce que très peu d'hommes verront les illusions créées par ces intelligences sur un plan matériel ou sur un autre. Les gens s'imaginent que les forces vont se servir du mal pour créer dans l'homme la crainte. Mais non, elles sont beaucoup trop intelligentes pour ça. On va se servir du bien, on va se servir du beau, on va se servir du grand, on va se servir du sacré pour créer dans l'homme et maintenir en lui l'illusion de la forme. Et les extraterrestres, le phénomène extraterrestre n'est pas le moindre, il est le dernier. C'est le cadeau de l'humanité. Mais vous savez, quand les politiciens annoncent une guerre dans le monde, on dit « Ah, peut-être que ça va venir, peut-être que ça va pas venir. » Durant vous permettez que je fume des exports? Durant la Deuxième Guerre mondiale, ah, peut-être que ça va venir, la guerre, peut-être que ça viendra pas, mais quand ça vient vite. Le phénomène extraterrestre va venir encore plus vite. Mais on ne croit jamais certains hommes parce qu'ils parlent trop avant le temps. Bon, si on disait la semaine prochaine, mais là tout le monde s'ajouterait des carabines. Mais non, on parle 20 ans en avant, alors c'est loin 20 ans. On a le temps de mourir, on a le temps de se remarier. Les carabines changeront de style. On lit les textes anciens, on lit les textes qui font référence à l'Atlantide, malgré que les textes ont été colorés un peu, mais on voit toujours le même phénomène. Il y en a toujours quelques-uns qui comprennent et la masse qui ne comprend pas. Et c'est toujours comme ça, c'est normal. Il y en a qui disent, ah, qu'est-ce que vous avez contre des extraterrestres? Je n'ai rien contre des extraterrestres. C'est des gens merveilleux, certains, et d'autres, ce sont des écœurants. Mais non, pour eux autres, des extraterrestres, c'est tous des petits Jésus. Parce qu'ils sont extraterrestres, vous imaginez, vous autres, que le mal, ça existe seulement sur la planète Terre? Allez sur les plans, ceux qui vont sur les plans. Vous demanderez ça à Guy Creteau. Il y a des choses que l'homme doit subir et a subi pendant des siècles, ça faisait partie de l'involution. C'était pour développer son intellect, son ego, son corps mental. C'était bon, c'était normal. Mais ça finit pas là, l'évolution. L'évolution, ça continue. Et à un certain moment, l'homme doit entrer, revenir à la source. L'homme doit à un certain moment être en contact avec l'intelligence universelle en lui. Ça va de soi. Il vient de là. Il doit retourner là. Maintenant que les outils ont été développés, que l'homme est intelligent aujourd'hui, suffisamment pour comprendre des choses qui, il y a 2000 ans, 5000 ans, auraient été au-dessus de son esprit, maintenant que c'est le temps, l'homme doit avancer et faire un pas plus loin dans la reconnaissance de ce champ très vaste qu'est la réalité. Et on ne peut pas entrer dans cette réalité avec les conceptions que nous avons du passé, avec les conceptions que nous avons de la vérité, avec les conceptions que nous avons du mal. Nous ne pouvons pas entrer dans cette réalité avec ces conceptions. Nous devons voir tout en relation avec un autre œil. Et cet œil, c'est l'œil de la conscience supramentale. Et elle appartient à tous les hommes, cette conscience. Tous les hommes qui sont dans cette conscience se comprennent. Il n'y a plus de division dans l'intelligence de l'homme. c'est une unification totale, mais où l'individualité est totalement en vertu, le danger de la subjugation de l'esprit de l'homme par les formes qui créent la division dans l'esprit de l'homme à cause des sentiments de ce dernier devient de plus en plus grand à tous les jours. Et la situation va s'accélérer jusqu'à la fin du cycle. Et à ce moment-là, ce sera le contact à l'échelle mondiale avec ces chers joujoux, ces chers extraterrestres. Et ensuite, il y aura une autre vague. Ce qui est le plus difficile à la fin d'un cycle, c'est de faire reconnaître que nous sommes à la fin d'un cycle, parce que personne réalise, personne sent, personne veut savoir que nous sommes à la fin d'un cycle. Heureusement, aujourd'hui, avec la télévision, la radio et les nouvelles qui se propagent dans le monde, et le durcissement des artères entre la Russie et l'Amérique, il nous est plus facile de voir, surtout dans la contingence de l'évolution très rapide de la technologie moderne, que c'est peut-être possible. Je vous dis que c'est très possible, même inévitable. Mais c'est par soi-même qu'il faut savoir, pas parce qu'un autre nous le dit. C'est par soi-même. Je retarde de dire des choses en public justement pour empêcher que les gens s'accrochent à ce que je dis, mais j'insiste pour que les gens en arrivent à développer leur propre système de référence interne, bien que ce système au début ne soit pas aussi clair qu'il peut l'être dans mon cas, il a la même qualité vibratoire. La sécurité de l'homme est en lui-même. Les extraterrestres ajouteront à la science de l'homme, ils ajouteront au rapport de l'homme avec la galaxie, mais l'homme, lui, devra être suffisamment centré en lui-même pour diriger les opérations et non les subir. On doit être maître dans notre maison. Mais on rationalise n'importe quoi. Si je dis ça à des gens, il y en a d'autres qui vont dire, « Ah, mais oui, mais vous imaginez qu'on est particulier, que l'homme, c'est un être spécial, on retombe dans les valeurs spirituelles de l'humanité, et ainsi de suite. » Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que l'homme doit être centrique. L'homme doit être autonome, l'homme doit être, ne doit pas être influençable de l'extérieur, et que l'homme doit avoir sa propre connexion interne, universelle, qui lui permette d'échanger avec tous les hommes et de pouvoir contrôler l'évolution de la planète Terre et de pouvoir siéger en permanence dans les sièges interplanétaires de la galaxie et accélérer l'évolution de la planète sur le plan science, sur le plan mental, sur le plan conscience. La vie de l'homme aujourd'hui, et quand je parle de l'homme d'aujourd'hui, je parle de l'homme ancien qui deviendra l'homme nouveau, est un exercice en patience. Ceux qui sont marqués pour l'évolution avec les forces de la lumière sont marqués, et ces hommes reconnaîtront en eux, à un moment donné dans leur vie, qu'il y a une connexion avec l'invisible, et leur vie deviendra un pas de course en attendant les événements. Et ce sont réellement ces hommes ou ces femmes, ou c'est avec ces hommes et ces femmes que je corresponds, même si je parle à la multitude. Parce que déjà ces hommes et ces femmes sentent, certains savent, et d'autres sont certains. Mais en parlant à la multitude, ça permet d'ajuster la vibration de l'esprit de l'homme pour que certains puissent bénéficier au moins un peu de leur vie personnelle et de leur autonomie, quel que soit le phénomène. Et plus le phénomène est grand, plus le danger est vaste.
Je vous rappellerai que tout ce qui vient d'être dit par Bernard est sur cassette à l'arrière. On vient de faire un bon jogging mental ou supramental. On va aller maintenant peut-être en faire un physique. Après, ce sera votre tour de poser des questions, soit par écrit sur les petits bouts de papier que vous apportez ici, ou soit directement, dans 15 minutes exactement. répète toujours la même chose au début. Il y a des questions qui ont sûrement déjà été posées plusieurs fois à Bernard. Alors, je commence d'abord par celles qui sont nouvelles, qui sont dans le cadre de la soirée de ce soir. Quitte après, si on a le temps, puisqu'on termine toujours à 11h, si on a le temps, ben là, on passera les autres questions. Bernard, peux-tu expliquer le rôle du maître qui s'occupe de moi en tant qu'âme et quelle est sa relation ou sa collaboration avec mon ajusteur de pensée?
Bon. Bon. C'est une question importante, ça. Ce que vous appelez le maître intérieur, c'est un personnage, c'est une entité, c'est un ego intelligent, c'est une intelligence en évolution qui évolue sur son plan et dont le rapport avec vous fait partie de son évolution. Ce maître n'a sur vous aucun pouvoir. Il doit respecter l'illusion de votre libre arbitre, qui est une illusion universelle, lorsque l'homme est dans la matière. La valeur de ce maître est celle-ci, c'est qu'il lui est permis de se servir de certains réseaux vibratoires qui sont en vous et de vous faire communiquer par le biais de votre intuition ou par le biais de votre expérience sur les plans spirituels, de la connaissance qui sert à votre évolution spirituelle. Il vous achemine petit à petit vers un point dans votre vie où il vous sera possible de recevoir une énergie qui est universelle, qui n'est pas sous-tendue par les lois psychologiques de votre ego, et qui est une force pénétrante dans votre esprit et qui permet à cette énergie, à un moment donné, lorsqu'elle est suffisamment imprimée dans votre mental, de changer la vibration de votre corps mental inférieur, soit instantanément ou à longue haleine, pour créer éventuellement une relation directe entre votre intelligence subjective et l'intelligence objective ou l'intelligence cosmique. Le maître intérieur sert temporairement dans votre vie à créer des formes spirituelles en vous pour vous acheminer de plus en plus vers une sensibilité de l'âme, et lorsque ce travail est fini, l'ajusteur de pensée entre en fonction officielle. Et quand je dis en fonction officielle, je dis que l'ajusteur de pensée est toujours là, que le maître travaille sous ses ordres, mais qu'à un certain moment, il entre en fonction officielle dans ce sens que c'est lui seul qui dirige l'activité électrique et chimique de votre personnalité, et c'est lui qui vous amène à la fusion. C'est lui qui impose de plus en plus sa volonté, c'est lui qui impose de plus en plus la force vibratoire qui émane de lui par le biais de l'âme et qui vous rend de plus en plus sensible à l'énergie du supramental. Et s'il fait partie de votre plan de vie, disons dans cette vie, d'entrer dans une fusion permanente avec cet ajusteur de pensée, il changera encore vos vibrations, vous ferez l'expérience de plus en plus évidente de l'illusion du libre-arbitre, vous perdrez de plus en plus votre libre-arbitre, et vous tomberez automatiquement, vous basculerez automatiquement dans la conscience universelle où votre libre-arbitre aura été changé, altéré pour la conscience libre, pour la conscience individuelle, qui est l'unité ou le résultat de l'unité vibratoire entre l'ajusteur de pensée et vous-même, le mortel. Alors, le travail du maître, c'est un travail temporaire, et le travail de l'ajusteur de pensée, lorsque l'homme est suffisamment évoluer sur le plan mental et sur le plan émotionnel devient un travail permanent éventuellement qui mène à la fusion.
Comment se dégager de l'emprise d'une personne, entre parenthèses terrestre, qui veut nous manipuler par le biais de la force de sa pensée?
Une autre question intéressante. Toute expérience est bonne, parce que toute expérience nous fait réaliser certaines choses. Si certaines personnes souffrent de l'influence, de quelque façon que ce soit, d'une autre personne sur leur mental, viendra un jour où cette souffrance sera tellement intense qu'elles forceront un changement, un renversement dans la vapeur pour se libérer psychologiquement, émotivement, mentalement, intellectuellement de cette emprise. Mais l'homme change dans la vie, prend une autre direction dans la vie lorsqu'il vit la crise. Et lorsque vous aurez suffisamment souffert intérieurement de cette emprise, la conscience de cette situation deviendra tellement révoltante pour votre esprit, dans votre esprit, qu'elle vous donnera la force de changer votre direction et de détruire la crainte qui, au fond de tout, est responsable pour l'aliénation psychologique d'un homme envers un autre.
Est-ce qu'une personne conscientisée est centrique et fusionnée en permanence?
Une personne peut être conscientisée, ne pas être fusionnée. Une personne fusionnée est de fait même conscientisée. Les gens n'ont pas besoin d'être fusionnés pour être conscientisés. Être conscientisé, c'est avoir accès à un niveau quelconque, à la réalisation qu'il y a un lien entre soi et le supramental, qu'il y a en soi un autre niveau d'intelligence qui se manifeste à travers notre esprit et qui suffit à organiser et à orienter notre vie de sorte que nous puissions vivre notre vie d'une façon autonome. La fusion n'est pas essentielle. La fusion fait partie de l'évolution, mais elle n'est pas essentielle dans tel moment ou tel moment de la vie. Ce que l'homme a besoin, c'est la conscience. Tous les hommes peuvent être conscients, s'ouvrent à l'esprit en eux, mais tous les hommes ne peuvent pas être fusionnés dans le temps où ils le désirent, parce qu'il y a dans la fusion une autre étape d'évolution pour l'individu qui le met sur un autre palier d'activité, sur un plan planétaire ou sur un plan universel, et ça c'est déterminé par le gusteur de pensée, et c'est connu et reconnu par l'individu lorsqu'il en subit l'expérience. Mais c'est la conscience qui est importante. Et la conscience constamment défie les formes émotives ou mentales qui emprisonnent l'homme et qui l'empêchent d'être conscient.
Deux questions ici qui s'entrecoupent. Comment développer son propre centre de référence interne? Par quels moyens pratiques?
Pour le développement de ce que j'appelle la centricité, nous devons comprendre des principes fondamentaux de la mécanique, de la mécanicité de l'esprit. Nous devons comprendre comment fonctionne l'esprit, quelles sont les lois de l'esprit, quelles sont les lois de la pensée, comment fonctionne l'émotion, quelles sont les lois de la forme, pourquoi la forme a une si grande emprise sur l'émotion de l'homme, pourquoi la forme brouille l'esprit de l'homme, pourquoi la forme empêche l'intellect de l'homme de comprendre d'une façon objective et totalement détachée de lui-même ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit connaître. Le problème de centricité est un problème qui est directement lié à la forme qui emprisonne l'homme à tous les niveaux de son expérience. Pour que l'homme se conscientise dans le supramental, il doit dépasser petit à petit ses formes, et c'est lorsqu'il apprend à dépasser ses formes que la centricité se développe, qu'il devient de plus en plus sûr d'être sûr, et que la conscience, c'est-à-dire le contact avec les plans supérieurs, se raffermit, se définit, devient précis, et éventuellement amène l'homme à pouvoir regarder dans l'avenir, à connaître les autres hommes, et à se connaître parfaitement. Il n'y a pas de formule magique. L'homme doit vivre son expérience. Le phénomène de la conscientisation de l'homme, de la pénétration du supramental de l'homme,
à un niveau où l'homme doit dépasser les formes spirituelles pour entrer dans la conscience pure, nécessite automatiquement chez lui la destruction de la forme. Surtout la forme qui siège dans le mental et la forme qui siège dans l'émotion et qui devient avec les années une sorte de ciment qui empêche l'homme de communiquer avec les autres plans. Les fausses formes, les fausses émotions, les pensées subjectives, tout ce qui est négatif, tout ce qui retarde l'homme, tout ce qui est fondé sur la crainte, doit être dépassé. Ce dépassement se fait au fur et à mesure que l'homme en prend conscience. Et la force pour briser ces formes, les rompre, les diminuer leur emprise sur soi, fait partie de la souffrance de cette transformation que doit vivre l'homme au fur et à mesure qu'il entre en contact avec des niveaux de plus en plus puissants d'énergie. La conscience n'a pas de fin.
Est-ce que notre conscience agit parallèlement avec notre intuition, ou est-ce la même chose, subjuguée par un certain conditionnement, soit familial, soit par l'éducation, par la tradition?
L'intuition fait partie de la conscience, mais l'intuition n'est pas juste, n'est pas ajustée chez l'homme. Il y a de l'émotion qui brouille l'intuition, il y a des idées qui brouillent l'intuition. Si l'homme avait une intuition totalement libérée des émotions, des formes émotionnelles, des formes mentales, il pourrait se fier à son émotion, pourrait vibrer en relation avec cette énergie qui se situe dans le plexus solaire ou qui se situe dans le mental, et l'homme pourrait facilement avoir accès à de l'information le concernant dans sa vie personnelle, à quelque niveau que ce soit, et pourrait se fier à cette information. Mais les formes en lui, mentales ou émotives, retardent ou diminuent ou brouillent sa réceptivité, un peu comme la statique brouille la réceptivité sur une radio.
Il y a beaucoup de maîtres spirituels dans le monde actuellement qui se disent en affiliation avec le cosmos. Autrement dit, leur conscience ne fait qu'un avec l'univers. Est-ce que vous expérimentez le même état de conscience que ces grands maîtres expérimentent et que l'on appelle conscience d'unité?
C'est une question qui me forcerait à catégoriser mon état ou ma personnalité intérieure ou mon état d'esprit. Et ce n'est pas important pour vous de connaître mon état d'esprit ou ma vie interne. Ce qui est important pour vous, c'est de connaître petit à petit votre propre vie intérieure pour que vous puissiez, à un certain moment dans votre vie, vous comprendre vous-même. Quand vous vous aurez compris vous-même, vous ne chercherez pas à vous situer ou à essayer de situer les maîtres ou ceux qui parlent un langage différent des hommes. Occupez-vous de vous-même, occupez-vous pas des autres. Parce que même si vous ne le réalisez pas, aussitôt que vous vous occupez d'un autre, d'un maître, vous créez en vous une forme spirituelle qui vous enlève votre autonomie et qui vous empêche de réaliser votre propre unité avec ce que les maîtres appellent l'universel.
Apprendre, c'est s'imprégner d'une vibration jusqu'à la compréhension. Apprendre, c'est découvrir ce que l'on sait déjà. Quelles sont les possibilités et les limites de l'éducation, de l'enseignement, de l'endoctrinement?
Il n'y a pas de limite à la perception vibratoire d'un enseignement ou d'une doctrine ou d'un endoctrinement. Un homme peut recevoir à l'infinité sans arrêt, pourvu qu'il y ait entre lui et celui qui émet la vibration une harmonie vibratoire. Mais dès que l'harmonie vibratoire cesse d'être manifeste entre un homme et un autre, pour quelque raison que ce soit, cet homme doit cesser son activité en relation avec l'autre qui émet cette vibration. Tant que l'on peut parler, tant que l'homme peut parler, tant qu'un être peut parler, il peut créer une vibration qui s'imprègne dans le mental d'un autre. Il n'y a pas de fin au discours créatif, mais l'homme qui reçoit la vibration, qui est imprégné de la vibration, doit sentir si la vibration lui plaît, si la vibration est en harmonie vibratoire avec lui intérieurement. S'il n'y a pas cette harmonisation, quelle que soit l'apparence physique, matérielle, l'expression extérieure de la personnalité, quelle que soit l'enjeu de la personnalité, quelle que soit la popularité de la personnalité qui parle, cet homme doit être sur ses gardes, parce que plus une personnalité est puissante, plus elle est dans le public, plus elle est grande sur le plan humain, plus elle peut être dangereuse, parce que justement elle est plus grande sur le plan humain, parce qu'elle déploie dans son potentiel créatif une forme de plus en plus puissante. C'est pourquoi l'homme, l'individu qui reçoit la vibration, doit être seul juge de la valeur vibratoire de cet homme. Il ne doit jamais demander à cet homme s'il est ci ou s'il est ça. Parce qu'un homme qui est quelque chose dira toujours qu'il est quelque chose pour prouver devant l'autre la vertu de ce qu'il est. L'individu seul peut déterminer et doit déterminer la vibration, le caractère vibratoire de l'homme qui parle. S'il y a sympathie vibratoire, tant mieux. S'il n'y a pas, il doit couper les ponts, quelle que soit la popularité de celui qui parle.
Ici, c'est signé par une femme libérée.
Une femme libérée ou une forme?
Une femme, pas libérée de la forme. Ce sont toujours des hommes qui sont représentés par les grands initiés, Krishna, Rama, Bouddha, Hermès, Jésus-Christ, Mahomet, etc. Bernard. Je n'ai rien contre l'aspect masculin, au contraire, mais y aurait-il un jour des femmes, l'aspect féminin, représentant ces grands êtres?
Les femmes libérées ne comprennent pas ce qu'est la libération. Ils sont emprisonnés dans l'esprit de leur libération. Une femme, c'est un esprit dans un corps mort, dans un corps femelle, comme un homme est un esprit dans un corps mâle. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. La différence est simplement sur le plan matériel. Et si les initiés prennent des corps mâles pour s'incarner et pour faire un travail, c'est parce qu'il y a, sur le plan matériel, certaines résistances psychologiques dans le mental humain mâle qui permettent une meilleure activité sur le plan humain. Ce n'est pas parce que les initiés sont plus ou moins entachés d'une valeur ou d'une autre. Le corps mâle a certaines résistances que le corps femelle n'a pas, ainsi que le corps femelle a certaines résistances que le corps masculin ne possède pas. Alors, on se sert toujours du meilleur véhicule pour faire tel ou tel travail. Tout le reste, c'est de la philosophie de la femme libre, et c'est une philosophie qui empêche la femme libre de voir objectivement l'importance de son rôle en tant que femme à l'intérieur de sa propre destinée. Si l'évolution de l'homme et de la femme au cours des siècles se fait de sorte que la femme devient majorative dans la société, à ce moment-là, ce serait normal que la femme, un corps femelle, soit empruntée pour l'exercice d'un mandat cosmique quelconque. Mais dans le passé de l'humanité, il en a été autrement. D'ailleurs, imaginez-vous aujourd'hui au XXe siècle, si une femme venait dans sa mini-jupe sur un plateau parler de la conscience cosmique dans un caractère quelconque, on regarderait plutôt ses jambes que son esprit, parce que l'homme n'est pas mental. Alors ce n'est rien contre la femme, c'est que contre la condition humaine de l'homme et de la femme. Moi, si j'étais femme, je serais bien, et malheureusement. Mais je créerais beaucoup de tensions à d'autres femmes qui ont des maris.
Expliquez. Il y aura des conditions qui seront difficiles même pour les élus, car les élus ne seront pas fusionnés, ils seront très conscients. Les fusionnés auront-ils transféré de plan?
Ce que l'on appelle dans les textes ésotériques ou les textes publics, les élus, ce sont les êtres qui auront le pouvoir de dépasser l'illusion de la forme. Et dans cet acheminement vers cet état d'esprit qui est totalement extrasensoriel, extra-humain, totalement abstrait en relation avec la conscience concrète de l'homme d'aujourd'hui, il est évident que ces êtres, ces hommes, ces femmes vivront des moments difficiles, mais leur conscience sera suffisamment développée pour leur permettre de discerner au bon moment la chose qu'ils devront connaître pour avoir accès à un niveau de vibration suffisant pour passer de l'autre côté.
expliqué, vous avez déjà dit, l'atome est la plus petite particule qui peut être amenée à se soustraire des lois de l'esprit.
L'atome est la plus petite particule qui peut être amenée à se soustraire des lois de l'esprit parce que l'atome n'appartient pas à l'esprit. L'atome est habité par l'esprit, c'est l'esprit qui domine l'atome et non l'atome l'esprit. Lorsque l'atome est inculqué dans l'esprit et qu'il ne parvient pas à se substituer à lui-même pour développer en lui-même une résonance suffisante pour appartenir à l'esprit, cet atome n'est pas de l'esprit, mais fait partie du mouvement de l'esprit dans la matière. C'est lorsque l'atome fait partie de l'esprit et est dans l'esprit que l'atome et l'esprit sont un et que l'homme qui est dans l'esprit contrôle l'atome.
Parlez-nous de la force. Parlez-nous de la force avec un grand F.
La force est l'organisation absolue de toute fonction créative dans l'univers et sert à déplacer dans le cosmos les énergies nécessaires pour engendrer le mouvement qui engendre l'espace, qui permet à l'évolution de se concrétiser dans les matières quelconques, afin que se produisent sur les plans inférieurs des données d'organisation moléculaire ou atomique suffisamment développées pour recevoir éventuellement l'Esprit de Dieu. La force, c'est ce que vous appelez Dieu. L'Esprit n'est pas Dieu. La force vient avant l'esprit et la force vient avant l'énergie. L'énergie est la manipulation de l'esprit. L'esprit est la manifestation de la force. La force est absolue et indiscernable par l'esprit. Mais la force peut être résolue dans sa fonction interne au niveau de l'âme par l'esprit parce que l'âme fait partie de la force. Mais l'âme, lorsqu'elle résolue le problème de la force, elle comprend la science de l'esprit et la compréhension de la science de l'esprit lui permet éventuellement de trouver ce que vous appelez le pied de Dieu. Et lorsque l'âme a trouvé le pied de Dieu, elle est au pied de Dieu. Et lorsque l'âme est au pied de Dieu, elle est dans la force de Dieu. Et si l'âme se manifeste sur un plan quelconque, dans quelque domaine ou département du cosmos, elle est capable d'agir en toute sagesse. Et si elle s'incorpore dans une matérialité pour permettre une évolution quelconque, cette matérialité représente sur le plan inférieur un aspect harmonieux de ce que vous appelez la force.
Parlez de la troisième trinité absolue. Les trois trinités absolues.
La troisième trinité absolue est celle qui engendre dans la conscience du mouvement les apostrophes moronciels de l'esprit du mouvement et qui détermine dans le temps les différentes sagesses éternelles qui se constituent les différents temps et qui organisent dans les temps les différentes vapeurs de l'esprit pour organiser dans la lumière les différentes fonctions de l'esprit. L'absolu de cette trinité est inconcevable à l'esprit de l'homme.
Mais qu'est-ce qui unit ces trois trinités?
Dans l'absolu, dans cet absolu, dans cette trinité absolue, il y a des fonctions divergentes. Et la fonction fondamentale de cette trinité absolue est sa capacité d'engendrer l'illusion parfaite de l'espace. Autrement dit, le Père absolu dans cette trinité absolue est responsable d'engendrer dans le cosmos l'illusion de l'espace. Et lorsqu'il engendre l'illusion de l'espace, il crée les possibilités pour l'esprit d'engendrer la lumière. Le Fils absolu, dans cette trinité absolue, engendre par lui-même et à l'intérieur de ses propres limites les différentes factions qui servent à maintenir dans le cosmos les rayonnements absolus de la gravité et de maintenir autour des planètes et des systèmes et des galaxies les champs de force de cette gravité pour que se maintienne en harmonie l'évolution des corps planétaires. L'intelligence absolue, qui n'est pas connue dans notre système et qui fait partie de cette trinité absolue, est une intelligence qui octroie dans son pouvoir interne quatre aspects. Elle octroie la puissance de la divination de l'absolu, l'intelligence absolue de la divination des relativités des temps, la puissance des temps dans la coordination des activités moronciales de l'esprit humain et l'activité extraordinaire des Meshisedek, qui doivent coordonner l'absolu avec l'invisible et l'infiniment petit et l'infiniment microscopique de l'homme. Parler de ces choses est une perte de temps.
L'intelligence du supramental utilise la loi du mensonge afin de ne pas bouleverser l'homme dans son cheminement, afin d'aider l'homme. Elle sert également à l'éprouver afin qu'il sache par lui-même. Parler de la loi du mensonge.
La loi du mensonge, c'est une loi qui protège l'esprit de l'homme parce que l'homme possède dans son esprit de l'émotion. L'homme vit de l'esprit de l'émotion, et tant que l'homme vit de l'esprit de l'émotion, il est incapable de voir objectivement, c'est-à-dire d'une façon absolue, sa relativité avec la perfection. Et étant incapable de voir d'une façon absolue sa relativité avec la perfection, il ne peut pas prendre sur ses épaules psychologiques le choc de la révélation. Et c'est pourquoi l'intelligence universelle maintient chez l'homme un certain parapluie pour le protéger contre le choc vibratoire d'une trop grande connaissance avant que son émotion soit transmutée en mental et que son mental inférieur soit régénéré par l'énergie du supramental.
Ce qui terminait le petit jeu de cartes que j'avais ici. Il y a des gens qui préparent des questions au cours du mois. Et ça a permis à Bernard, je pense, d'aborder des domaines les plus intéressants en ésotérisme. Parlez-vous toujours d'une façon aussi abstraite que ce soit?
Je parle suivant les questions que vous me demandez. Si vous me demandez des questions plus simples, je parle plus simple. Je dois ajuster ma vibration à ce que vous me demandez. Il est évident que si je parle de choses qui sont en dehors de l'intelligence humaine, je suis obligé de changer le caractère vibratoire de mon mental et que ce caractère vibratoire devient plus pénible au niveau de l'intellect parce que je suis obligé de forcer dans votre esprit l'absence de la mémoire. Afin de vous permettre de recevoir un peu de ce que je dis, au lieu d'être forcé d'essayer d'absorber quelque chose qui ne se comprend pas.
Est-ce que c'est possible de savoir qui êtes-vous?
Qui êtes-vous?
Qui êtes-vous?
Moi?
Oui.
Qui je suis, moi?
Ça s'adresse à bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est possible de savoir qui êtes-vous?
Si c'est possible de savoir, oui, effectivement, c'est possible de tout savoir. Mais de là à savoir si c'est possible de savoir, non. Pas parce que je ne veux pas le dire, mais parce que si je le disais, ce ne serait pas bon. Ce serait créer pour vous une forme. Et Dieu sait si vous en avez assez. Richard m'a trouvé un beau nom, Bernard de Montréal.
Montréal, c'est une île. Quand je suis seul dans la maison, je sens la présence d'une personne près de moi. Qui est cette personne?
Peut-être n'importe qui. C'est à vous de le découvrir. Ça fait partie de vos expériences extrasensorielles.
Mais comment?
Avec le temps, peut-être vous pourrez la voir. Avec le temps, peut-être vous pourrez la discerner. Votre vision astrale se développera. Si vous communiquez mentalement, peut-être qu'on vous donnera une réponse. Mais sachez, pour revenir au sérieux, que les mondes s'interpénètrent et qu'il y a des gens chez qui, dans la maison, il y a des présences qui sont plus présentes que dans d'autres cas, parce que justement ces gens-là ont une certaine sensibilité que d'autres ne possèdent pas. Mais il y a des gens dans les visites tout partout, il y en a partout ici. Mais les gens ne les sentent pas, alors ils ne les réalisent pas. Mais si vous les sentez parce que vous avez certaines facultés extrasensorielles, il ne faut pas que vous vous cassiez trop la tête avec ça, parce que avec le temps vous pourrez les voir. Et en attendant, faisant l'expérience, essayez de ne pas être trop nerveux, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Il y a des gens qui ont de grandes sensibilités, qui peuvent sentir des êtres autour d'eux, qui peuvent se sentir se toucher. Ça fait partie de leur expérience pour les amener à détruire la crainte de l'invisible. Il y a des raisons pour tout. Si on vous habitue pendant 10 ans, 15 ans à sentir une présence dans la maison, vous développez une certaine résistance émotive à l'invisible, et un jour, lorsque le temps sera venu pour d'autres expériences, vous aurez été préparé.
Qu'en pensez-vous des psaumes de David?
Très grand, très beau.
Est-ce bon de les lire souvent?
Tant que vous les lisez, vous engendrez en vous une grande spiritualité, mais aussi vous créez un égrégore qui rattache votre esprit au passé. Pour attacher trop votre esprit au passé, vous allez avoir de la difficulté à le projeter dans l'avenir. Ce qui a servi dans le passé, a servi dans le passé. Quand vous êtes à l'école, que vous allez à l'école, vous avez lu des livres lorsque vous étiez en 7e année, en 8e année, aujourd'hui vous êtes rendu en 11e année, en 12e année, ou à l'université, vous ne relisez plus ces livres. Vous avancez vers l'avenir. Il en est de même pour les connaissances. Il en est de même pour les textes. Il en est de même pour le matériel spirituel de l'humanité. L'homme doit un jour vivre totalement intérieurement dans le présent et aller vers l'avenir. Sans cela, vous allez lire les psaumes toute votre vie, vous allez vous spiritualiser toute votre vie, mais vous n'atteindrez jamais la conscience pure.